الانترفيو.
لوماج اكسبريس نحكيو على الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف مع ضيفنا مدام سماح بن يونس، هي مكلفه بالاتصال في كلوستر ميكاترونيك. اهلا وسهلا بك سماح. حاضر معنا دكتور فانسون لوسير اللي هو دكتور ان انتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف. دكتور bienvenue parmi nous, merci d'être des nôtres.
Bonjour à tous.
Heureux de vous compter parmi nous. Alors, je vais vous dire, Samah, في إطار la conférence اللي صارت الأسبوع الفارط في علاقة بالانتليجنس ارتيفيسيال جينيراتيف. Justement, نحبوا ناخذوا فكرة على الكونفرنس اللي صارت هذه وخاصة في علاقتها مع le cluster mécatronique, Samah.
Le cluster mécatronique travaille, comme vous le savez, sur des axes comme l'innovation collaborative. Et dans ce cadre, on a mis en place des groupes de travail. Et parmi ces groupes-là, c'est le groupe IA appliqué à l'industrie. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a invité M. Vincent Lecerf pour assurer à la fois un atelier pour le groupe de travail durant la matinée du 29, mais aussi une conférence en marge de notre Assemblée générale. D'accord. Donc, Monsieur Lecerf nous a aidé à détecter et savoir quel usage de l'IA dans l'industrie et aider nos membres à savoir quel usage, quel outil appliquer à leur industrie. Donc, c'est ça le but général, mais...
قبل ما نعطي كلمة للدكتور لوسير، الحضور اللي كان في الكونفرنس هذه شنو هو نوع الحضور معناه؟
نوع الحضور مختلف من شركة الأخرى. احنا on compte 77 membres, 77 entreprises membres في الكلوستر. من des entreprises يخدموا في الميكانيك, في الإلكترونيك, الإلكتريك, la métallurgie, la plasturgie. Donc on voit de tout. D'ailleurs c'est ce qu'a remarqué monsieur Lecerf dans notre conférence. Il y a de tout, de tous les profils, de toutes les tailles d'entreprises. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est un cluster vivant et très dynamique.
Ben, donc, je n'ai avec le docteur Lecerf, docteur Vincent Lecerf. Comme je l'ai cité, vous êtes docteur en intelligence artificielle. Vous êtes également gérant et fondateur de Metagenia. C'est votre entreprise. Et ça fait une semaine à peu près que vous êtes en Tunisie. Par rapport à ce que vous avez vu pendant cette conférence et pendant votre séjour en Tunisie, quel est le rapport avec l'intelligence artificielle qu'a le Tunisien, allez, on va dire, le manager tunisien actuellement?
Alors, le manager tunisien, alors en effet, hein, j'ai fait plusieurs rencontres. J'ai intervenu d'abord par faire une formation sur l'IA générative avec des collaborateurs de OneTech, donc une société qui fait partie du cluster mécatronique. Ensuite, j'ai passé par le cluster pour faire la sensibilisation et une conférence. Et globalement, les managers, ils sont très intéressés. Ils se posent des questions. Ils se posent, est-ce que mon entreprise va être transformée ou pas par cet outil-là? Donc la réponse, c'est oui. Est-ce que c'est une option ou pas? La réponse, c'est non, c'est plus une option, c'est une obligation, il va falloir vraiment s'y mettre. Et très vite, quel usage? Voilà, c'est ça la question qu'on m'a posée pendant ces 5 jours. Quels sont les usages de l'IA dans mon entreprise? Donc dans les entreprises que j'ai rencontrées comme OneTech ou Sartex, on a commencé à dérouler quels sont les usages. Et puis, dans le cas du cluster, j'ai fait une sensibilisation pour que tout le monde prenne conscience qu'il n'y a pas une IA, mais il y a des IA.
Et est-ce que vous avez vous êtes rendu compte qu'il y a assez de conscience par rapport à l'importance de l'outil, l'intelligence artificielle générative?
Alors, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient déjà avec des questions, qui avaient déjà eu le sujet en tête. Sur l'IA générative, clairement, oui, il y a déjà pas mal de sujets, beaucoup de mises en pratique. Et j'ai eu des personnes qui avaient déjà utilisé ChatGPT, qui utilisaient Copilot, Gemini, etc. etc. Par contre, sur l'IA industrielle, au sens je travaille sur des données, j'extrais de l'information des données et je vais faire de la valeur, maintenance prédictive, correction de défauts, là, il y avait vraiment une diversité des personnes qui avaient déjà expérimenté, qui avaient déjà fait des tests et d'autres qui découvraient complètement le sujet.
Et justement, la conférence était sur le thème l'intelligence artificielle générative compagnon du dirigeant. Aujourd'hui, comme vous venez de citer, on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle peut-être dans sa version bêta, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Justement, on veut rentrer un peu plus en détail et en profondeur de cet outil et son impact. Dans l'avenir de l'entreprise.
Alors, l'impact, on peut regarder un petit peu dans l'histoire où est-ce qu'il y a eu des impacts de nouvelles technologies. Bon, quelque chose qui est vraiment pour moi assez proche de la révolution de l'IA générative, encore une fois, je fais la cible sur l'IA générative, c'est la bureautique. Quand vous avez intégré la bureautique, la secrétaire qui était avec sa machine à écrire, tout d'un coup, elle s'est fait remplacer par une autre secrétaire qui s'est mise à utiliser des fichiers, une souris, un clavier, un ordinateur, etc. Donc il y avait quand même un niveau d'évolution et ça s'est fait naturellement. C'est exactement ça, l'IA va remplacer la bureautique. C'est-à-dire que maintenant que la bureautique nous a servi pendant maintenant 30 ans, maintenant on va lui laisser la place à l'IA. Générative. Ça veut dire qu'il faut absolument se mettre au goût du jour. Et même le manager doit comprendre, au même titre que les dirigeants d'aujourd'hui qui connaissent très bien Word, Excel et PowerPoint et qui savent très bien ce que utilisent leurs collaborateurs au quotidien, ils doivent absolument se former à cette IA générative pour qu'ils comprennent tout ce que leurs collaborateurs vont utiliser pendant les 10-15 prochaines années. Voilà. Mmh. C'est à peu près ça. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas à refuser cet outil-là. C'est une des choses que je fais en premier, c'est de rassurer, parce que quelqu'un qui n'est pas rassuré, il ne s'y met pas. Et puis quand quelqu'un a dit « Ok, j'ai compris, c'est qu'un outil, je ne vais pas perdre mon emploi, je vais pouvoir commencer à m'y mettre », et l'IA générative est presque naturelle en disant « C'est beaucoup plus cool de pouvoir faire un petit prompt qui va permettre de générer un texte plutôt que d'écrire le texte entièrement quand une machine peut générer 80% du texte. Mmh. » Il y aura toujours le travail de l'humain qui va peaufiner, vérifier, la machine a fait des erreurs, corriger donc ces textes-là.
Et vous avez parlé des craintes, surtout par rapport à ce que l'intelligence artificielle générative remplace l'humain. Et comme vous l'avez cité, docteur Le Serre, ça peut avoir du sens, mais oui. Justement, il ne faut pas se limiter aux craintes, il faut agir.
Alors, les craintes, elles sont très médiatiques. Il y a une crainte qui est le remplacement. Il y a la crainte que je vais perdre mon emploi ou que je vais beaucoup transformer mon emploi. Donc, il va falloir que je me reforme, etc. etc. La réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, c'est que c'est qu'un nouvel outil. Il est très accessible, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se reformer, on a juste besoin de lancer un ChatGPT, apprendre à prompter, mais ça se fait en l'espace d'une, deux, trois journées, c'est pas une révolution, on n'est pas obligé de refaire des études pour faire ça, et en plus c'est à la portée de tout le monde. Et on voit tout de suite le résultat. On voit des gens qui écrivent des textes sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire. Donc on voit le niveau, et c'est ce que j'ai rencontré dans les retours d'expérience que les entreprises ont partagé depuis une semaine en Tunisie, c'est que leurs collaborateurs ils font beaucoup de bonnes fautes dans tous les langages, pas seulement le français, l'anglais, l'italien. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de relations entre la Tunisie et l'Italie, chose que j'ignorais. Et j'ai vu que, en effet, l'IA générative permet d'aider à la transcription. C'est vraiment une des révolutions qui va changer nos relations et notre relation à la connaissance même, pas seulement à la traduction, mais aussi à la connaissance. Mmh. On va utiliser l'IA pour aller chercher de l'information aujourd'hui.
D'après vous, docteur Le Serre, quel est le meilleur moyen pour préparer et les dirigeants et les collaborateurs à intégrer ces outils dans leur quotidien, dans leurs tâches quotidiennes?
Bon, je pense qu'il y a deux approches. Il y a une bonne approche top-down, c'est-à-dire je reforme le comité de direction de l'entreprise, tout le monde parle le même langage et après on identifie les gros usages qu'il faut mettre en place dans l'entreprise. Et puis un bottom-up, c'est-à-dire je prends les collaborateurs et je leur dis « Bon, voilà, vous utilisez de la bureautique, maintenant il va falloir utiliser l'IA. » Alors, ça ne touche pas tous les collaborateurs, ça utilise les collaborateurs qui travaillent déjà sur le numérique, c'est-à-dire c'est les cols blancs. C'est les cols blancs qui sont touchés. Ce que va apporter l'IA, c'est automatiser la partie col bleu des cols blancs. C'est-à-dire la partie réutilisable sur laquelle on va pouvoir... C'est la partie qui a peu de valeur pour le col blanc. Rédiger du texte, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le message qui se trouve dans le texte. Et donc, le col blanc, il n'est pas là pour répondre à des mails. Il est là pour envoyer un message à quelqu'un qui a besoin, et le mail, c'est le support. Donc, la rédaction peut être sous-traitée à la machine, et puis le message, le contenu, l'intelligence, c'est bien l'humain qui la garde, quoi. Encore une fois, il n'y a aucune intelligence dans l'intelligence artificielle. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a un conseil à donner, c'est oser faire utiliser. Il y a des outils gratuits, donc on peut tout de suite tester et vous allez être surpris, très surpris, quoi.
On a parlé tout à l'heure des craintes par rapport au remplacement de l'humain, mais il n'y a pas que des craintes par rapport à cet aspect, puisqu'il y a aussi des craintes sur la fiabilité de l'intelligence artificielle générative. Justement, par rapport aux dirigeants, comment on peut avoir la version qui est la plus fiable possible, ouais, d'après vous, docteur ?
La plus sécurisée. En fin de compte, la question se pose pas spécialement sur l'IA, mais aussi sur la data. Là, on partage énormément de données, hein. Donc, il faut se poser la question, est-ce que cette data doit circuler ou pas dans les fameux clouds, puisque c'est bien dans les clouds que les IA fonctionnent. Et peut-être envisager, si vraiment vous avez beaucoup de données confidentielles et que vous avez déjà mis en place une solution où tout est en local, de se dire, peut-être qu'il faut qu'on installe une IA en local. Il y a des solutions en open source, Yamaha, Mistral, vraiment qui sont disponibles. Et c'est là où on a évoqué au cluster l'idée de avoir ses propres IA, peut-être mutualisées entre plusieurs entreprises. Hein. C'est un peu ça. Ouais. Donc pour l'instant c'est en réflexion, hein, mais c'est peut-être une des solutions pour ne pas avoir tout mettre ces données dans le cloud. Ensuite, il y a une charte de l'IA à mettre dans les entreprises, c'est-à-dire expliquer aux collaborateurs ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire. Au même titre qu'on a fait une charte sur la data, il faut absolument que le CODIR, en tout cas la direction de l'entreprise, doit prendre en réflexion sur quels sont les risques qu'on peut avoir avec ces outils-là. Alors, la fiabilité, c'est encore un autre sujet, c'est-à-dire qu'en effet, la machine, elle fait 8% d'erreurs, hein, c'est à peu près la moyenne qu'on trouve, donc il faut une correction humaine. Il faut absolument que tout document, même les images, hein, ou les vidéos qui vont être créées, tout type de document, fichier Excel, Word, PowerPoint, soit relu par un humain, parce que la machine, encore une fois, elle a ses limites, elle, au niveau algorithmique, au niveau des erreurs qu'elle va produire.
Et donc, il y a toujours un rôle pour l'humain pour corriger, pour vérifier, et pour peut-être être sûr que c'est pertinent, c'est responsable aussi.
Responsable aussi, alors tout à fait. Alors moi, j'ai fait un petit clin d'œil à ceux qui m'ont déjà vu cette semaine. Je représente ça par un éléphant rose. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la machine ne peut pas faire, ou ne sera jamais capable de faire, détecter des éléphants roses, parce qu'on n'a pas assez de données pour lui apprendre à reconnaître ça. Et puis, dans la masse de choses à reconnaître, peut-être qu'il y a d'autres avantages. Mais l'éléphant rose représente pour moi les métiers de demain. C'est les métiers que la machine ne pourra pas faire. Et parmi ces métiers, il y a les rôles des managers, puisque les managers sont là pour gérer de l'incertitude, gérer de l'humain. Hein, c'est un rôle d'un manager et qui est important. Et la machine, travaillant que sur le passé, elle ne peut pas anticiper ce qui va arriver ensuite. En tout cas, elle ne peut pas prévoir l'incertain ou ce que leur te retombe dessus le matin en disant « Ah mince, je n'avais pas prévu ce coup-là, je suis obligé d'annuler complètement mon emploi du temps et je vais être obligé de repenser avec mon cerveau des nouvelles solutions, etc. etc. » Donc, il faut qu'on valorise ces métiers-là, les métiers de l'erreur, de la maintenance, les métiers qui nécessitent de créer en continu, en temps réel, des solutions que là, la machine ne pourra pas faire. En clair, si je résume un petit peu, l'IA va s'occuper de la routine de nos vies et nous va s'occuper du reste, l'exception.
Mais remarquez, docteur, que vous venez de détruire l'image de le manager à intelligence artificielle par excellence, alors que on est en train de parler de manager, même de ministre issu de l'intelligence artificielle.
Oui, mais ça marche pas. Ça peut pas marcher.
Du moins jusqu'à présent.
Jusqu'à présent, mais l'algorithme deep learning ne va pas avoir de remplacement, on va avoir bon bout de temps. Donc on peut dire que c'est une limite qui va durer quand même dans le temps. C'est-à-dire jusqu'en 2030, on est à peu près sûr que ces limites-là, on va pas les franchir. C'est quoi ces limites? Ces limites de la machine incapable de comprendre la subtilité qu'on a, nous, en tant qu'humain. Et en effet, je leur dis aux managers, je dis, Vous n'êtes pas vraiment concerné directement par l'IA sur votre métier de gestion de l'incertitude. Par contre, en périphérique, pour faire un discours, pour répondre à un mail, pour plein de choses que vous gérez tous les jours, voilà, ouais. Ça vaut le coup de vous y mettre. Et aussi, pour comprendre aussi comment vos collaborateurs, qui eux vont l'utiliser au quotidien, vont avoir des transformations dans leur métier. Donc voilà, ça c'est important de bien se positionner.
On va se projeter dans 3 à 5 ans. Ouais. Comment voyez-vous l'évolution de la relation entre l'intelligence artificielle générative et le monde de l'entreprise, docteur Le Serre?
Elle sera tellement présente, au même titre que l'électricité qui est partout, l'intelligence artificielle générative sera partout. Je veux dire, dans chaque document que vous mettez dans une entreprise, une entreprise sait gérer avec des documents, hein, documents au sens large, hein, ça peut être une voix.
Pas forcément du papier.
Pas spécialement du papier, mais déjà une grosse partie de nos documents sont déjà numérisés. Et donc, je suis même pas sûr qu'on le mettrait sur un CV, je sais utiliser l'IA générative. Tellement ça sera obligatoire. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, si vous faites un CV, vous dites je connais Word, Excel et PowerPoint, c'est un peu bizarre de mettre ça dans un CV. On se dit pourquoi il insiste là-dessus, quoi. Tout le monde sait utiliser Word, Excel et PowerPoint. Donc oui, si on se projette sur 3-4 ans, savoir utiliser une IA générative sera devenu tellement évident que voilà. Donc aujourd'hui, c'est un avantage concurrentiel pour les entreprises de s'y mettre. On prend un petit peu d'avance sur le reste du monde sans que ça coûte très cher, parce que c'est assez facile à intégrer dans les boîtes. Mais demain, ça ne sera pas une différenciation dans les entreprises. Tout le monde aura l'IA générative. Ceux qui ne l'auront pas utilisé vont disparaître, donc il ne restera que ça. L'avantage concurrentiel, se posera sur d'autres points.
Tout à l'heure, on a parlé du dirigeant ou du manager IA que vous avez, du moins jusqu'à présent, vous voyez mal comment ça pourrait avoir lieu. Mais dans quelques dizaines d'années, est-ce que vous croyez que le problème se posera encore?
Enfin, je suis pas Nostradamus, je suis pas capable de vous dire comment le monde va changer. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Là, l'algo qui est la base de toutes les IA dans le monde, c'est le deep learning. Cet algo a des limites. C'est ce que j'ai présenté justement à chaque fois pendant les 5 jours. J'ai montré ses limites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de remplacement à cet algo. C'est un algo qui est probabiliste, c'est un algo qui est mathématique et qui n'a aucune réaction intellectuelle. Je vous donne un exemple. Si vous voulez savoir comment on marche à GPT, c'est simple. Il fait beau aujourd'hui, le soleil brille et le ciel est... Vous avez tous envie de dire bleu, quoi. C'est ce que fait ChatGPT tous les jours. Il complète la phrase. Il complète la phrase suivante. Et si vous lui posez une question, ce qu'il y a de plus probable après une question, c'est une réponse. Mais lui, il ne sait pas que c'est une question. Donc vous voyez, la limite de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'elle n'a aucune intelligence. Et donc de temps en temps, c'est pas mal d'avoir un humain qui corrige un peu ses délires, un petit peu ses hallucinations. C'est comme ça qu'on raconte quand on est sur ChatGPT. Ces hallucinations, elle est présente dans toutes les IA, quoi. Donc il faut, encore une fois. Et pour le manager, alors peut-être vous êtes déçu peut-être d'avoir besoin d'un manager automatisé. Non, c'est du fantasme total. À mon avis, je navigue avec les managers depuis très longtemps. J'en rencontre beaucoup parce que je suis dans des associations qui me mettent des dirigeants en face de moi presque toutes les semaines. Et à chaque fois, on me pose cette question-là. Est-ce que je vais être transformé, remplacé par l'IA? Non, tu as des outils qui vont t'aider, mais ton métier de manager, dans 5 ans, dans 10 ans, existera toujours.
On va conclure avec un conseil que vous souhaitez donner aux dirigeants tunisiens. Comment tirer parti de l'intelligence artificielle générative dans son entreprise? Docteur Le Serre, je vous laisse le mot de la fin.
Un seul conseil?
Si vous en avez plusieurs, je suis preneur.
On peut passer une heure dessus. Non, j'ai envie de dire, d'abord, informez-vous. Rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à faire peut-être des diagnostics dans vos entreprises de l'intelligence de data et où on peut mettre de l'IA. Et puis régulièrement, informez-vous sur cette évolution, quoi. Et puis parlez avec votre comité de direction, parlez à vos collaborateurs. Il ne faut jamais oublier que 10% des gens dans une entreprise aiment l'IA. Donc on peut aussi...
10%,
10%, ouais, c'est une moyenne.
Il y a 90 qui sont dans l'autre bord.
Non. Il y a 10% qui aiment bien l'IA, il y a 10% qui sont réfractaires à l'IA, et il y a 80% qui ne savent pas encore trop où ils vont, et qui écoutent, et qui sont intéressés, et qui, en tout cas, quand je les forme, je peux vous promettre qu'ils sortent le soir, ils se disent, moi, ça y est, je sais quoi faire demain, et quelquefois même, c'est le soir même, qu'ils vont commencer à mettre en place l'intelligence artificielle, ou même en parler à leurs enfants. Ça dépasse aussi le cadre du management, ça dépasse aussi le cadre de l'entreprise. C'est une révolution qui va avoir beaucoup d'importance et qui va transformer même nos façons de vivre.
Dans tous les cas, qu'on aime ou pas, qu'on apprécie ou pas, vaut mieux ne pas tourner le dos à l'intelligence artificielle générative, docteur.
Soyez curieux, allez-y, osez, vous allez voir, c'est assez fun.
Merci, voilà. On a pris énormément plaisir pendant cette interview avec docteur Vincent Le Serre, docteur en intelligence artificielle et fondateur de Meta Genia. Alors, on va conclure cette interview. Merci Samer Benyounes, responsable comme du cluster mécatronique. Shukran ala hudurek. Docteur Vincent Le Serre, heureux de vous avoir compté parmi nous.